7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La question du jour, hier, une quinzaine de personnes étaient jugées en comparution immédiate après les violences survenues dimanche soir, en particulier dans le quartier des Champs-Élysées à Paris. La défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich s'est soldée par de nombreux incidents malgré le déploiement d'un important dispositif de maintien de l'ordre. Bonjour Christian Mouana.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et chercheur au CNRS. Alors comment expliquer que cet événement attendu, puisqu'on savait qu'il y aurait des supporters, un déploiement de forces de l'ordre et néanmoins des exactions commises comme ça devant les caméras, comment expliquez-vous cela ?
Je pense qu'il y a une difficulté à prendre en compte des populations finalement assez différentes qui ont dû se réunir pour fêter entre guillemets cette défaite du PSG. On a certainement des hooligans relativement classiques, mais là on sait qu'on a des dispositifs de lutte et de suivi par la police qui sont très encadrants, très contraignants, avec y compris des physionomistes dans la police qui suivent un certain nombre de personnes. Mais se sont ajoutés à cela certainement des casseurs, comme on voit maintenant dans à peu près toutes les manifestations, et puis d'autres gens qui étaient là pour fêter quelque chose, pour sortir dans cette ambiance un peu contraignante de suite ou de retour du coronavirus, faire la fête. Et tout ça s'est mélangé, rendant finalement le travail de la police assez compliqué à faire.
Y aurait-il eu un deux poids deux mesures ? On a vu par exemple que la répression contre les gilets jaunes était forte. Est-ce que là, elle a été moins forte ? Est-ce que c'est au contraire un effet de perspective ? Quel est votre point de vue, Christian Mouana ?
Je pense que là, on peut parler d'une répression assez forte. La difficulté, elle est toujours, que ce soit dans le cadre des gilets jaunes ou dans le cadre des manifestations qu'on a connues dimanche soir, de pouvoir identifier en particulier des casseurs ou des gens qui sont très mobiles, certains qui sont des opportunistes qui vont a priori pour faire la fête et puis qui s'aperçoivent que certains d'entre eux vont casser et s'associer à eux. C'est extrêmement compliqué de gérer des groupes très mobile et difficile à identifier.
Bon, ça veut dire qu'il y a eu, donc là, en l'espèce, 150 personnes environ qui ont été interpellées et placées en garde à vue. C'est le signe qu'il y a eu une intervention policière efficace, selon vous ?
Il y a eu une intervention policière. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par efficacité. Est-ce qu'on veut que tous les gens qui aient participé à ces violences, à ces dégradations, soient interpellés ? Ou est-ce que on se dit qu'on peut pas interpeller tout le monde et qu'on en interpelle qu'une partie ? C'est toujours la difficulté. On demande toujours aux policiers une réponse à quasi 100%. On voudrait zéro délit, zéro cambriolage, zéro dégradation. Et on voit que c'est extrêmement difficile dans un contexte comme celui-ci où on a plein de petits groupes très mobiles.
Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est le « on voudrait ». Mais est-ce que les ordres qui sont donnés laissent entendre, par exemple, qu'il vaut mieux, par exemple, quelques bris de vitrine plutôt que des bavures, qu'il faut un maintien de l'ordre, mais néanmoins une force raisonnée, plutôt que, effectivement, des scènes où on verrait les forces de l'ordre utiliser une force excessive?
Oui, c'est bien la difficulté du travail policier dans une démocratie comme la France. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, où on peut estimer que la réaction des forces de l'ordre et des autorités était finalement assez virulente. Il y a certains discours qui incitaient les policiers à dire finalement, même si il doit y avoir des blessés, même s'il doit y avoir des blessés graves, il faut intervenir, il ne faut pas laisser faire. Là, on est dans quelque chose finalement peut-être un peu plus mesuré, c'est toujours le problème. Est-ce qu'on préfère qu'il y ait des blessés ? Est-ce qu'on veut accepter qu'il y ait des morts pour avoir un peu ces dégradations, un niveau zéro de dégradation ? Ou est-ce que, au contraire, on se dit il y a des dégradations, mais on va laisser les choses finalement s'écouler pour éviter qu'il y ait trop de blessés. Hein. On l'a vu par exemple quand il y a eu la fête du PSG en 2013 au Trocadéro, qui est un événement finalement assez similaire. On a eu 30 blessés, dont certains assez graves.
Et le lieu de rassemblement, les Champs-Élysées, une nouvelle fois, parce que bon, les Champs-Élysées n'ont vraiment pas été épargnés ces temps-ci, ne valait-il pas mieux, par exemple, l'interdire tout simplement, la circulation ?
toute la question. On voit bien comment même le préfet avait prévenu qu'il y aurait un certain nombre d'interdictions, de limites par rapport à l'utilisation des Champs-Élysées. On voit bien qu'on a un lieu symbolique, hein. Les Gilets jaunes se sont réunis sur les Champs-Élysées. Là, on a un certain nombre de personnes qui se sont réunies aussi sur les Champs-Élysées, alors même qu'on est assez loin du Parc des Princes. Finalement, les Champs-Élysées, c'est aussi un lieu à la fois de fête, hein. C'est là où on a fêté toutes les Coupes du Monde quand on est fan de football, mais c'est aussi l'endroit où on manifeste contre le gouvernement avec un décalage entre la vie que vivent certains de ces casseurs et ces Champs-Élysées qui sont le symbole de la consommation, de l'ostentation d'un certain nombre de richesses.
Plus généralement, est-ce que vous avez l'impression, Christian Moina, vous qui êtes sociologue et qui suivez ces questions de sécurité et d'insécurité, avez-vous l'impression qu'on a affaire à une forme d'ensauvagement et une violence débridée que l'on verrait au travers d'événements tels que par exemple cette défaite du PSG?
Mais qu'il y ait des mouvements violents, bon, c'est évident, on le constate. Quand on parle d'ensauvagement, ça voudrait dire qu'on a une évolution vers plus de mouvements violents. Or, quand on regarde spécifiquement le hooliganisme, on voit bien qu'on a depuis très très longtemps des événements qui ont été beaucoup plus graves. Je ne sais pas si vos auditeurs se rappellent du stade du Heysel en 1985 en Belgique, où il y a quand même eu des gens qui ont été écrasés contre des grilles dans un stade de foot. On se rappelle plus proche de nous les violences des supporters russes, en particulier à Marseille, au moment de la Coupe du Monde. Bref, il y a toujours un certain niveau de violence, un certain niveau de protestation qui peut être accentué par le contexte économique, le fait qu'actuellement, avec la gestion du Covid, il y a une impression de pression qui peut paraître insupportable à certains. Donc on est sans arrêt confronté à ces violences.
Dernière chose, Christian Moina, le ministre Gérald Darmanin a évoqué la possibilité d'utiliser des drones dans le maintien de l'ordre. Est-ce que cela pourrait être un outil efficace ou bien s'agit-il d'un gadget ?
On voit toujours au ministère de l'Intérieur une partie des gens toujours se trouver la solution technologique pour répondre à ça. Il y a déjà beaucoup de vidéosurveillance dans Paris. On peut suivre les événements quasi en direct depuis la salle de contrôle de la préfecture de police. C'est pas les drones vont sans doute pas changer grand chose. À l'époque des émeutes, des grandes émeutes de 2005, on parlait de déployer des hélicoptères et que c'était la solution. On a toujours l'impression que c'est la technologie qui est la solution. Or, ça cache le gros problème qui est l'état des relations entre la police et la population en France.
Technologie vue de haut entre les drones et les hélicoptères. Merci Christian Moina. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS.